Votre émission L'Enjase du mardi 17 février commence à l'instant, midi 1 minute. Je vous annonce immédiatement, on n'est pas en 2022. On n'est pas non plus en 2018. On est bel et bien, Antonine et Mathias, le 17 février 2026. D'accord?
Es-tu sûr?
Oui. Les auditeurs, vous pouvez réagir au 418-971-1021. Ceux qui nous écoutent via les ondes hertziennes. Ceux qui nous écoutent via le blvd.fm, c'est-à-dire notre web radio. Et vous allez avoir les meilleurs moments de l'émission au blvd.fm dans la section réécouter par la suite. Ceux qui sont à l'écoute via l'application BLVD 102.1 sur App Store, Google Play Store. Ceux qui ont dit à leur haut-parleur intelligent, écoutez BLVD. Ceux qui se retrouvent sur Twitch à l'instant même et qui disent, faut absolument que je vienne voir ma gang du midi. Et enfin, ceux qui sont abonnés à la page YouTube et qui vont pouvoir réécouter après l'émission le caucus avec Antonine Iaccarini. Non, on n'est pas en 2018. Non, on n'est pas en 2022. On est bel et bien le 17 février 2026, mais on va parler de quoi, Antonine et Mathias, aujourd'hui?
De tramway?
Non!
Non!
Ah! Ça, c'est la semaine passée qu'on coupait les arbres.
OK, c'est ça, OK.
Ça, c'est hier que Stéphane
Lachance... Ça date déjà.
C'est hier que Stéphane Lachance, qui en campagne électorale municipale, avait fait le tour de la municipalité en disant « Moi, je suis pro-environnement, pro-arbre. » C'est hier qu'il a fait sa conférence de presse. Ça, c'était hier.
Ben, si on parle pas de tramway, il y a juste un autre dossier.
Lequel?
Au cours des dernières années
Mais
à Québec.
Lequel?
Il y en a juste un deuxième. Je pense que c'est le troisième lien.
On va parler du troisième lien. Antonine, es-tu aussi excitée que moi?
Oui, très excitée.
T'es excitée, hein? On va parler du troisième lien. On va parler d'une autre marche arrière. Mais, je vais me positionner tout de suite. Puis là, je suis quasiment gêné de dire ça. Le 17 février 2026. Mais c'est tellement tout croche la CAQ, je pense que c'est une marche arrière qu'on avait besoin. C'est pas drôle.
Je suis assez d'accord avec toi. Honnêtement, là, s'il n'y avait pas eu toute l'historique du dossier, je pense que cette annonce-là, dont on va parler tantôt,
oui.
On l'aurait saluée dans le sens que c'est dommage parce que dès le départ, si on avait aligné les choses comme il faut, ben peut-être qu'on serait en train de commencer des travaux.
C'est un super beau plan. Court terme, moyen terme, long terme. Il y a trois phases. Phase 1, phase 2, phase 3. C'est super. En 2018, ça aurait été écœurant que la CAQ nous ponde ça. Mais là, c'est en 2026. Sauf que on peut pas non plus tout reprocher à Christine Fréchette qui, elle, arrive comme candidate à la chefferie puis dit « Mais savez-vous quoi? Peut-être que François Legault puis Geneviève Guilbeault qui ont géré ce dossier-là l'ont géré tout croche. »
Ben c'est ça. C'est que Mme Fréchette... Elle devait prendre un positionnement sur le troisième lien. Elle ne pouvait pas faire abstraction de ce qui s'est passé dans les 7 dernières années dans le dossier. Et on s'entend que ça ne mettait pas la table là, pour que n'importe quelle annonce que tu allais faire, peu importe ce que tu allais annoncer, ça soit accueilli là, comme lettre à la poste.
Exactement. Merci à Éric et Pierre d'avoir découvert qu'on allait parler du troisième lien pour une 8e année consécutive. Sans qu'il y ait de réalisation dans le plan court terme, moyen terme et long terme qu'on va vous présenter de Christine Fréchette. Je pense que c'est ça la grosse nouvelle, même si on le savait déjà, c'est de se rendre compte à quel point il n'y a rien qui a été fait en 8 ans. Mathias, veux-tu nous résumer cette annonce justement que Christine Fréchette a faite ce matin à 10h? Et fais-moi penser, Antonine, il va vraiment falloir parler aussi de l'appui de Martine Biron à Christine Fréchette.
Oui, donc le plan de mobilité pour Québec qui a été présenté par Christine Fréchette aujourd'hui, c'est un plan qui amène beaucoup de choses que la CAQ était censée de faire puis qui n'ont pas fait finalement. La phase 1, c'est agir maintenant. Donc, cette phase-là qui va s'échelonner sur quelques années. On commence par le réaménagement de la tête des ponts à Québec.
Ça avait été annulé par Geneviève Guilbeault, ministre des Transports, l'an passé au plan... au PQI, donc au plan des infrastructures. Parfait.
Ah, puis tu vas voir, c'est pas le premier qui a été annulé par la CAQ. Hein? Poursuivre l'élargissement de l'autoroute 20 à Lévis. Donc, l'idée, c'est de faire sur 6 kilomètres au lieu de 3 et quelques kilomètres.
Encore annulé par Geneviève Guilbeault, un plan qui faisait partie du PQI depuis des années.
Abaisser le tablier du pont de Québec pour y permettre le camionnage. Puis ça, je tiens à le préciser, ça n'a pas été annulé par la CAQ. Par contre, Jonathan Julien a dit en 2025 qu'il n'y avait pas d'avantage à baisser le tablier du pont de Québec.
Oui, exactement. François Bonnardel est revenu là-dessus. On en parlera tout à l'heure.
Construire un pont à étagement à l'intersection Robert-Bourassa-Le Bourgneuf, un projet qui a été abandonné en 2025 par la CAQ. Lancer un appel de proposition pour un nouveau lien interrive à l'Est en partenariat public-privé. Vous en devinerez donc que le troisième lien, présentement dans le corridor central, on le met aux poubelles. Ouais. La phase 2, qu'on a appelée optimiser les infrastructures. On parle de revoir la configuration de la tête des ponts, mais du côté de Lévis cette fois-ci, et d'ajouter une septième voie au pont Pierre-Laporte. Et finalement, la phase 3, le nouveau lien interrive, le fameux troisième lien. À ce moment-là, on parle de construire un lien interrive à l'Est en partenariat public-privé et donc un pont à péage.
Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iaccarini vous les sert clair, net et précis dans Le Caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici Le Caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Le Caucus avec Antonin Iaccarini, vous l'aurez compris, on va commencer avec cette annonce sur le troisième lien d'équipe Christine Fréchette, je vais le dire comme ça parce qu'elle était accompagnée de Martine Biron et François Bonnardel. François Bonnardel, pas futile sa présence, c'est l'ex-ministre des Transports avant Geneviève Guilbeault, donc lui de 2018 à 2022 qui a travaillé sur le projet de troisième lien. Anto, honnêtement... C'est un plan hyper bien détaillé, c'est un plan méthodique, c'est un très, très, très bon plan. C'est juste valeur pour les électeurs de la CAQ. Ils arrivent en 2026 au lieu de 2018, puis il n'y a pas grand-chance que la CAQ gagne dans la région de Québec malgré cet excellent plan que Mathias vient de nous détailler.
Oui, puis on écoutait les phases 1, phase 2, phase 3. On s'entend que c'est pas demain la veille, là. Et même, j'irais plus loin... Si on décline vraiment, on déploie toute la phase 1, moi, je pense qu'il va y avoir réévaluation aussi du véritable besoin pour la suite parce qu'on vient déployer un paquet de solutions pour s'assurer une meilleure mobilité. Et déjà, c'était un peu fragile, la justification de construire une nouvelle infrastructure. Quand Mme Guilbeault s'est présentée avec tous ses cartables pour tirer la plug sur le projet, elle avait des données à l'appui qui démontraient que non seulement on arrivait mal à justifier l'achalandage pour construire une toute nouvelle infrastructure routière.
Ouais.
Peut-être transport collectif, ça pourrait effectivement, comme on a vu dans le rapport sur la mobilité de CDPQ Infrastructure, qui nous démontrait que, en fait, ça aurait un impact probablement plus grand que de rajouter des autos qui arriveraient là, selon plusieurs scénarios à différents endroits dans la ville. Et qu'un troisième lien, à ce moment-là, on nous avait dit que ça nous ferait gagner 5 minutes en moyenne chez les automobilistes, mais que ça créerait aussi tout un paquet de problématiques, puis ça coûtait cher aussi. Donc, évidemment, moi, je pense que si on déploie toutes ces solutions-là, la justification de construire le troisième lien éventuellement, ça risque de donner une porte de sortie à peu importe le gouvernement qui sera au pouvoir à ce moment-là.
Oui, puis je pense, et corrige-moi si je me trompe, dans le fait de vouloir s'associer au privé et de faire un pont à péage, bien, on va donner la responsabilité au privé de rentabiliser cette infrastructure-là. Donc, ça sera une entreprise privée de prendre le risque ou non de construire l'infrastructure avec une subvention du provincial, mais où le provincial ne sera pas seul parce qu'on veut s'adjoindre le fédéral et avec le fait qu'il va y avoir une partie payée par le privé. Fait qu'au lieu que la CAQ ou le gouvernement du Québec, parce que ça sera vraisemblablement pas la CAQ qui va être réélue, donc au lieu que le gouvernement du Québec investisse 11 milliards dans un projet qui, rappelons-le, selon les données, avec le corridor central, donnait à peu près un gain de temps de 2 minutes et demie. Là, 11 milliards de 2 minutes et demie, c'était pas mal fou.
C'est cher.
Bien là, le gouvernement provincial va peut-être investir 2 ou 3 milliards et ça sera une entreprise privée de le rentabiliser avec les droits de passage.
Le problème avec ça, c'est justement, tu l'as dit, il faut que ce soit rentable pour une entreprise privée. Et ça veut dire que quand il va avoir l'appel à proposition, toi, tu as une entreprise, là, tu construis des ponts dans la vie, OK? Là, tu vois ça. Tu vois aussi l'historique du dossier. Il y a eu tellement de changements d'idées. Le dossier est hautement politisé. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a des entreprises qui vont dire « Oui, moi, là, ça, là, c'est un bon projet. Je vais mettre des ressources parce que les gens ne savent peut-être pas, mais pour une entreprise, de participer à un appel de proposition, ça demande des ressources à l'interne. Il faut que tu évalues certaines choses. Est-ce que l'historique du dossier donne envie à des entreprises de se lancer dans un partenariat avec le gouvernement là-dessus? J'ai des doutes.
L'historique, et j'ai envie de te dire le positionnement aussi, parce qu'on n'y pense pas. Nous, un troisième lien à l'Est, ça paraît stratégique pour le périphérique. Mais pour une entreprise privée qui veut rentabiliser un pont présentement, le secteur à l'Est, c'est pas énormément développé en termes urbanistiques. Il n'y a pas énormément de développement ruraux de villes, je veux dire. Est-ce qu'une entreprise verrait vraiment un lien positionné là puis se dirait « Ouais, ce lien-là va être rentable. »
Bien, ils sont mieux équipés que nous pour faire certaines études d'évaluation pour projeter l'achalandage dans les prochaines années. Puis d'ailleurs, les opposants au troisième lien disent que ça favorise l'étalement urbain et c'est sûr que c'est le cas. Là. Si tu pars un troisième lien dans une zone
par contre, l'étalement urbain est déjà présent parce qu'encore hier, en une, Journal de Québec, c'était le développement dans la MRC de Portneuf et de Côte-de-Beaupré.
On n'a pas inventé ça matin, l'étalement urbain.
Fait que je pense pas que le troisième lien va être si contributeur d'un mouvement qui est déjà là.
Ça peut contribuer beaucoup, mais après ça, tu mets tout ça dans la balance puis tu regardes les bénéfices puis les désavantages puis tu prends ta décision. Mais reste que la raison pour laquelle aussi il n'y a pas eu d'annonce dans les dernières années sur un troisième lien à l'Est, c'est que techniquement,
c'est très difficile.
C'est très compliqué.
Oui, bien, c'est la raison pour laquelle Bernard Drainville se rabattait sur le corridor central.
Oui. Et ce que M. Drainville nous disait, c'est que peut-être qu'il n'est pas parfait, le projet, mais c'est un projet qui est faisable et qu'on a déjà commencé, donc continuons là-dedans. Et là, ça m'amène à parler de la différence entre les deux candidats face à ce projet de troisième lien et leurs annonces respectives. Ça vient vraiment démontrer leur approche et leur personnalité comme candidats aussi. M. Drainville qui dit « Arrêtons de tergiverser et avançons ». Et c'est vrai qu'après des années de tergiversation, tu te dis « Mon Dieu, est-ce qu'on va vraiment encore retourner à la table à dessin? »
Bien, en effet.
Il y a un point, là. Puis aussi, on n'est pas toujours obligé d'attendre que les ponts tombent à terre pour en construire un autre. Là, on a vu ce qui s'est passé avec le pont Champlain à Montréal. On peut éviter ça. Là.
Exactement. Puis je vais faire une comparaison avec le tramway parce que c'est les deux projets qui ont pris l'ensemble des...
de l'oxygène des débats à Québec. Oui.
Ben, le tramway, c'est un peu ça. Moi, j'ai le tramway présentement dans le corridor qu'on va le faire. Moi, personnellement, tant qu'à faire le tramway, je l'aurais fait dans son entier.
T'étais dans l'approche tant qu'à y être.
Moi, j'étais dans l'approche... Écoute, c'est vrai qu'on a des problèmes de mobilité à Québec. La CDPQ Infra nous dit c'est ces trois phases-là de tramway qui vont vous amener plus de monde dans le transport en commun puis qui vont être une bonne solution vers le fait qu'on va devenir 1 million dans la grande région de Québec. Fait que moi, je me suis dit, pourquoi qu'on en fait juste un? Faisons un trois. Parce que juste un, ça servira à rien. Mais je comprends, à un moment donné, je me suis rabattu à dire, ouais, il faut commencer en quelque part.
Oui, puis à un moment donné aussi, on peut pas, dans le PQI, on peut pas toujours en ajouter. Donc, si on regarde maintenant du côté de Christine Fréchette, bien, ça démontre, comme tu disais en introduction tantôt, son côté plus méthodique, plus studieux. M. Drainville dirait plus hésitante, plus on consulte et on repousse les décisions à plus tard. Les deux peuvent être vrais selon... Moi, je pense que les gens qui aiment déjà Christine Fréchette vont se dire, voilà, elle est responsable, c'est des milliards de dollars, faisons les choses comme il faut. Puis ceux qui ne l'aimaient déjà pas vont dire, bien, c'est ça, comme d'habitude, on repousse les vraies décisions à plus tard. On se trouve un espèce de faux fuyant. Et d'ici l'élection, il n'y aura rien de vraiment commencé de toute façon. Fait qu'on s'en sort bien politiquement.
Oui, bien, c'est là ma question. C'est des projets que la CAQ avait tous dans leur carton. Pas toutes, mais plusieurs que la CAQ avait prévus. Puis finalement, ils les ont pas faits. Est-ce que l'électorat va croire Christine Fréchette lorsqu'elle dit « Cette fois-ci, c'est la bonne. On va vraiment les faire, des projets qu'on fait pas depuis des années. »
Ouais, je dirais que les plus optimistes, les plus positifs vont dire « Ben, c'était pas elle qui était là. Elle n'est pas responsable de comment ça s'est passé dans le dossier depuis toutes ces années-là. »
Sais-tu quoi? Je suis parmi ceux-là.
Bon, c'est ça. Donc, il va y avoir certaines personnes qui vont penser comme ça. Mais je pense qu'il va y avoir quand même une bonne partie de la population qui n'écoute même plus ce qu'aucun caquiste a à dire dans le dossier. Et surtout, on est en année électorale. Donc déjà, les gens ne sont pas dupes. Ils savent bien qu'on est dans un moment où on essaie d'aller séduire l'électorat. Et malheureusement, ce qui s'est passé à l'élection 2022 avec la CAQ et le troisième lien, ça laisse des traces indélébiles.
Ben oui.
On se rappelle que pendant l'élection partielle dans Jean Talon en 2023, celle qui a fait élire Pascal Paradis, député du PQ, il avait expliqué publiquement qu'il avait été approché par la CAQ. Il y avait eu des discussions avec la CAQ pour peut-être être candidat caquiste en 2022 et qu'on lui avait donné l'assurance qu'on allait tirer la plug sur le projet de troisième lien. Puis ça, c'était pendant la campagne électorale de 2022, alors que le tirage de plug s'est passé après l'élection. Donc, qui dit vrai? Moi, je n'étais pas dans la pièce quand il y a eu ces discussions-là, mais la réalité, c'est qu'ils ont fini par tirer la plug sur le troisième lien, malgré un engagement électoral qui était là en 2022. Donc ça laisse des traces sur le niveau de confiance des citoyens, c'est sûr.
Vous êtes énormément à réagir. Pascal, salut, Jeff. Est-ce possible de demander à Mme Fréchette de faire le troisième lien en premier? Parce que si elle fait les autres travaux sur les deux ponts, ça va faire des bouchons, donc le troisième lien aiderait beaucoup. En effet, Pascal, mais c'est dans la séquence. C'est que dans la séquence... Tout est déjà prêt pour réaménager la tête des ponts de Québec. Tout est déjà prêt pour élargir l'autoroute 20. Tout est déjà prêt pour faire le pont à étagement. Donc, si on attend un troisième lien, c'est que ça veut dire que ça arrive dans 10 ans.
Puis ça veut dire qu'on n'a aucun impact sur la circulation, la mobilité pour encore plusieurs années.
En plein ça.
Mais je comprends son raisonnement.
Ben
parce
oui.
que quand il y a des travaux, évidemment, on est affecté. On le sait. Là, on en a eu beaucoup dans la dernière année à Québec. Mm-hmm. Puis c'est sûr qu'on s'imagine avoir une autre alternative pour pouvoir traverser puis fuir ces bouchons-là. Moi aussi, j'aurais aimé ça, mais malheureusement, ça se peut pas.
Puis justement, là, on parle du troisième lien qui est dans la dernière phase du projet. Est-ce que Mme Fréchette le met aussi loin que ça pour se dire, je fais mes autres projets, c'est eux autres que je juge prioritaires?
Ben oui.
Puis elle sait que c'est gagnant politiquement, mais elle peut se garder une porte de sortie vu qu'il est dans plus longtemps.
Ben écoute, moi, c'est sûr que je vois ça comme ça. Là. Je trouve que, tu sais, elle a été face à une décision où elle se disait, dans le fond, j'ai trois options. Soit que je dis comme Bernard, puis je me dis, on y va avec le projet, on a pris un engagement face à la population, puis là, il faut arrêter de changer d'idée parce qu'on n'avancera jamais. Puis comme on disait tantôt, il fallait comme reculer pour... tu sais, quand on est en train, là, des fois, il faut reculer pour changer d'aiguillage, là, pour aller prendre un virage. Et de l'autre côté, elle avait l'option de carrément arrêter le projet. Ce qui aurait été probablement l'attente de bien des gens plus dans la région de Montréal, etc., ceux qui sont moins concernés par le dossier. Et entre les deux, ben, il y avait « est-ce qu'on change le projet? » On le fait, mais on change le projet. Et là, elle se donne de l'oxygène dans le temps, ce qui fait que, finalement, ça implique à pas grand-chose.
Est-ce qu'on change le momentum? Et dans son momentum positif qu'elle amène, c'est de dire « je vais faire tous les autres travaux nécessaires à... » Donc, c'est ça le momentum aussi qu'elle amène.
Moi, ça me rejoint jusqu'à un certain point parce que moi, j'ai jamais été contre le projet troisième lien. J'aimerais ça qu'il y ait un troisième lien qui fonctionne bien, qui s'intègre bien dans la circulation et qui augmente la mobilité à Québec. Okay? Puis moi, l'argument environnemental de dire que la crise climatique repose sur nos épaules à Québec, là, ça va être correct. Là, non, j'achète pas ça. Mais je suis consciente aussi qu'on a des infrastructures partout au Québec qu'on doit réparer. Donc, avant de construire des nouvelles infrastructures, moi, j'ai besoin de savoir que, un, c'est urgent, que c'est vraiment une priorité. Donc, moi, personnellement, je suis pour un troisième lien. Est-ce que c'est ma priorité tous les instants cette année et qu'on doit dépenser 11 milliards de dollars là-dessus, là, à court terme? Je suis obligée de dire que non. Donc, ce que Mme Fréchette propose, c'est qu'on ne ferme pas la porte, on continue d'avancer, mais en même temps, on se garoche pas à dépenser de l'argent pour un projet qui peut-être qu'après les travaux qui ont été proposés va être moins un besoin de toute façon. Puis si on est pour le troisième lien, on n'est pas non plus, tu sais, moi, je veux dire, c'est pas idéologique, là, genre, non, je veux pas qu'on fasse d'autres travaux. Si c'est le même objectif puis le même effet, je m'en fous que ce soit un troisième lien, je m'en fous. Je veux juste que les gens à Québec, y ait une mobilité qui soit efficace, puis on veut pas se retrouver, surtout qu'on a une ville qui est en développement, on veut pas se retrouver comme Montréal, pogné dans des bouchons puis pas capable de circuler. Là.
En plein ça. Évidemment, Christine Fréchette s'est fait poser la question en conférence de presse, et en passant, Christine Fréchette va être avec nous aux alentours de 13h, donc si vous avez des questions pour elle, n'hésitez pas au 418-971-1021. Elle s'est fait poser la question, est-ce que c'est un désaveu envers la CAQ?
C'est sûr que ça n'a pas été un dossier dont on salue la gestion au fil des ans. Ça a été difficile, ce dossier-là. Et peut-être que ça a créé des enjeux au niveau de la circulation, mais nous, ce qu'on veut, c'est agir rapidement, à brève échéance, pour faire en sorte d'améliorer la situation, la fluidité. On reconnaît qu'il y a des enjeux de ce côté-là, mais il n'y a pas une seule réponse qui pourra régler les enjeux de circulation. Il va falloir un bouquet d'options, et c'est ce qu'on prévoit, une variété d'options à mettre en place dès les prochains mois, au cours des prochaines années, pour que les gens voient l'amélioration.
Et elle a ajouté.
Moi, je pense qu'on a mis nos œufs dans trop peu de paniers. Il faut y aller de manière diversifiée. Il n'y a pas une baguette magique qui va régler les enjeux de circulation dans la région. Et c'est ce qu'on vous offre ce matin, une variété d'actions à court et moyen terme.
Moi, je vais avoir une question là, pour Christine Fréchette. Là. Ça va être de dire à quel point elle trouve que François Legault et Geneviève Guilbeault ont erré dans le dossier.
Bien, c'est une bonne question. Puis c'est sûr, parce qu'elle, elle hérite de ça. S'il n'y avait pas eu toute cette historique-là, son annonce aujourd'hui, ce serait beaucoup plus simple à faire. C'est sûr qu'elle a une opinion là-dessus. Bon, on va voir si ça nous donne une réponse de politicienne.
On va donner une réponse de politicienne, mais je vais lui poser quand même la question.
C'est une question que tout le monde se pose.
J'essaierai une petite relance. Non, c'est ça. Donc, vois-tu, il y a Johnny qui écrit « On n'avance pas pour supposément 11 milliards, mais on fonce dans le tas pour le tramway de 13 milliards. » Bien, malheureusement, t'as entièrement raison, Johnny. On se pose vraiment énormément de questions sur le coût final du tramway. D'ailleurs, on va avoir Steve Lavoie demain en entrevue avec nous. C'est lui qui a sorti le 13 milliards à la Chambre des communes, aux alentours de 12h35. Et puis, tu sais, moi, je te dirais, Johnny, je suis contre les deux options. Tu sais, moi, le tramway à 13 milliards pour une petite route de 19 km, là, trouvons une autre option, là, parce que pour moi, ça fait pas non plus.
En fait,
ça fait pas plus de sens.
En fait, c'est comme si dans les dernières années, il fallait que tu sois pour un ou pour l'autre, ouais. Contre un ou contre l'autre.
Moi, je suis pour la mobilité en général, puis je suis pour les projets. De toute façon, j'ai toujours dit, moi, je tripais sur le réseau express de la capitale, qui est en 2015. Qui était un serbant à grandeur de la ville de Québec, puis qui allait à Lévis jusqu'au complexe Desjardins, puis qui était un troisième lien périphérique à l'Est. Fait que moi, tu m'aurais donné ça. J'aurais été heureux.
Mais là, malheureusement pour toi, je pense qu'il faut que tu fasses ton deuil.
Ouais.
Je t'avais promis de te rappeler qu'on veut parler aussi de la conférence de presse de Mme Fréchette, parce qu'elle était accompagnée de François Bonnardel. C'est pas banal, tu le disais tantôt, c'est l'ancien ministre des Transports, mais c'est surtout la caution adéquiste. Hein, on le sait. Là. C'est comme si c'était lui qui portait l'héritage de l'ADQ à la CAQ. Et ça avait été un coup dur pour Bernard Drainville de ne pas avoir l'appui de François Bonnardel, lui qui voulait ramener la CAQ là, à sa vraie, son vrai ADN, celui de l'ADQ. Mais il y avait aussi la présence de Martine Biron. Martine Biron, elle est députée dans Chute de la Chaudière, donc c'est l'autre comté, de la Rive-Sud, à côté de Lévis. Et elle a attendu que Mme Fréchette précise son idée sur le troisième lien avant de lui accorder son appui. Parce qu'elle, elle représente ses citoyens. Quand Geneviève Guilbeault avait mis fin au projet de troisième lien, ça n'avait pas été très confortable. On se rappelle surtout de Bernard Drainville qui pleure parce que ça avait marqué les esprits. Mais Mme Biron n'était pas particulièrement heureuse après ça de se promener dans les épiceries du comté.
Ben non.
C'est pas évident. Donc, le fait pour Mme Fréchette d'avoir la présence de Martine Biron, ça vient aussi démontrer qu'on est capable de satisfaire les gens de la Rive-Sud, parce qu'elle porte un peu la voix de ses citoyens. C'est symbolique. Là. Je ne vous dis pas là, qu'elle est allée chercher l'appui de tous les citoyens ce matin avant d'aller faire le point de presse. Mais c'est très symbolique pour Mme Fréchette d'avoir, j'ai envie de dire, enfin un appui dans la région.
Oui, puis Martine Biron a dit, tu sais, moi, anyway, je me promenais en ville, puis les gens me disaient, ça n'a pas d'allure, votre corridor central.
Ben,
donc,
ça.
Moi, je me range avec le plan de Christine Fréchette, parce que je suis convaincu que les gens vont trouver que ça a plus d'allure.
Et le maire de Lévis, en passant. Là,
oui.
C'est ça le problème avec le projet tel qu'il était porté par la CAQ depuis quelques mois maintenant, c'est qu'il n'y avait même pas un appétit ou un appui qui était si fort que ça.
Exactement. Évidemment, les oppositions ont réagi. On écoute Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois.
Surtout des idées qui n'ont aucune crédibilité venant de la CAQ. C'est ça la réalité. C'est la 10e fois qu'il change de discours. Et comme je vous dis, il y a un discours de Christine Fréchette, qui était la ministre de l'Économie quand on nous disait que ça prenait absolument le troisième lien pour des questions de sécurité économique, côte à côte avec le ministre des Transports de 2018 à 2022, qui vous a convoqué un nombre innombrable de fois pour vous dire pourquoi le troisième lien allait avoir lieu. Ce matin, les deux nous annoncent que ça n'aura pas lieu, puis on a d'autres choses. Donc, ce serait une troisième élection consécutive pour la CAQ, où on nous promet quelque chose dans le dossier du troisième lien, puis tout ça tient pas la route.
Je suis tanné de ce genre de politique-là.
Ben, il a raison, hein.
À ta minute. Pascal Paradis a dit sur nos ondes le 5 février dernier.
Oui.
Faut abaisser le tablier du pont de Québec pour faire passer les camions lourds. Faut créer une 7e voie sur le pont Pierre-Laporte. Faut faire les travaux à la tête des ponts.
Toutes des affaires
faut
qui sont
annoncées
ce matin.
Faut faire le pont à étagement. Mm. Ça a été ces quatre conditions d'amélioration de la fluidité, de la mobilité.
Oui,
Christine Fréchette présente ça, puis Paul Saint-Pierre Plamondon. Hey, c'est pas crédible, hein, c'est pas si.
Mais c'est pas
c'est des bonnes idées.
Oui, mais c'est normal. Il vient porter la voix de tous ceux qui se disent comment est-ce qu'on peut y croire encore une fois. Tu sais, parce que les partis d'opposition, comme le maire de Québec ou comme le maire de Lévis, là, à chaque fois que la CAQ arrive avec une nouvelle affaire, ils doivent se prononcer. Mais sauf que ça fait 5 fois qu'on se prononce sur des affaires différentes dans du même gouvernement. Donc, à un moment donné, lui, politiquement, là, pourquoi encore se commettre sur une énième proposition? Moi, en tout cas, je comprends sa réaction. Oui, il aurait pu quand même prendre le temps de saluer les améliorations proposées dans la phase 1, compte tenu que son député demandait
ça. Parce que moi, ce que j'aurais fait, si j'avais été Paul Saint-Pierre, je disais, hey, je suis donc bien content, matin, la CAQ nous a écoutés, c'est les solutions qu'on proposait. Ben voyez, il disait pas la CAQ, il disait nous, c'est nos idées.
Moi, ouais, j'avoue que, mettons qu'on était conseiller politique, là, puis que tu avais apporté ça à la table un matin, là, quand on s'est dit, bon, ben, comment on va réagir à l'annonce de Mme Fréchette, je me serais peut-être rangé à tes arguments.
Ben oui, moi, j'aurais dit, regardez comment on est bon, on vient de faire changer la CAQ. Fait que les jeunes de la région de Québec, là...
Ils sont revenus à la raison.
C'est nous autres. Ils sont revenus à la raison, c'est nous autres. C'est PSPP. En plus que PSPP, ils aiment ça avoir raison.
Mais en même temps, c'est vraiment facile de craquer le monde à Québec en disant...
C'est
clair. Tu peux pas croire la CAQ. C'est un terreau fertile parce que les gens sont vraiment rendus cyniques face à ce projet-là. Et le lien de confiance est tellement brisé que peut-être qu'il est allé un peu plus vers la facilité. Je trouve que ta ligne de com' est plus subtile. T'es plus fin renard. Mais je pense que la ligne de PSPP est quand même efficace.
Je pourrais conseiller le futur premier ministre.
Ben, envoie ton CV.
OK, on écoute Éric Duhaime pour terminer cet excellent caucus avec Antonine Iaccarini, disponible du lundi au jeudi sur les ondes de Boulevard 101 de midi à 12h30.
Bien, d'abord, qu'ils disent que le tracé centre-ville à centre-ville de la CAQ à 11 milliards n'est pas le bon. Je pense que là-dessus, de plus en plus de gens sont d'accord. Là. À part la CAQ qui nous a roulé dans la farine puis qui a tiré le dossier puis qui a utilisé ça pour ne pas aller de l'avant, je pense que tout le monde est d'accord. Soit étant dit... Là, elle dit que ça va être à l'Est. Là, j'ai compris dans la période des questions qu'elle ne ferme pas la porte au fait que ça passe par l'île d'Orléans. Ça, je pense que c'est une bonne nouvelle. C'est la première fois depuis longtemps qu'on entend un caquiste dire que le troisième lien pourrait passer par l'île d'Orléans, qui quant à nous, est le tracé qui a toujours été dans les cartons du ministère des Transports depuis 50, 60 ans.
Garde, il m'a écouté.
Ben, je pense que tu l'as conseillé, là.
Oui, oui. Il a écouté, il a dit, hey, c'est une bonne idée, la CAQ, crime, c'est moi qui l'ai dit en premier.
Mais moi, sur le fond des choses, sur la forme, t'as raison, bravo. Puis je pense que c'est une bonne réaction d'Éric Duhaime. Mais sur le fond des choses, puis je suis pas ingénieur, là, mais là, le pont de l'île d'Orléans, on a déjà commencé à le faire.
Ouais, non, c'est ça, là.
J'ai
la même réflexion.
Ben, j'étais, moi, à la conférence de presse lorsqu'on a annoncé le pont de l'île d'Orléans et j'ai posé la question à Geneviève Guilbeault. Pourquoi nous annoncer le pont de l'île d'Orléans sans avoir statué sur le corridor du troisième lien? Et elle m'a dit c'est deux dossiers complètement différents.
Ben, un, elle a dit ça. Puis deux, c'est parce que déjà, il était cher, hein, le pont, tu te rappelles? Puis
ben
elle s'excusait quasiment en point de presse. Elle a dit, je le sais que c'est cher, là, mais là, à un moment donné, il faut le faire.
C'est 2,8 milliards. Puis elle a dit, ben là, on n'a pas le choix. On ne peut pas laisser ces gens-là se déplacer en radeau.
Ben, ça. Puis après ça, tu laisses traîner le dossier. Qu'est-ce qui va arriver? Le pont va coûter encore plus cher, là, on le sait. Le plus tu laisses traîner les dossiers de transport, plus que ça coûte cher. Donc là, moi, maintenant, je me dis, on ne peut pas revenir dans le passé. Comment ça va fonctionner? Et dans le dossier de troisième lien, puis je termine là-dessus, moi, j'ai toujours été fascinée comment les politiciens se travestissaient de quoi en ingénieur.
Oui!
Puis j'ai jamais entendu des ingénieurs dire qu'un projet était faisable.
T'as jamais cru aux lignes fluo sur un carton d'Éric Duhaime?
Moi, je pense que ça, c'est des... ça, c'est tel que tel au Parti conservateur, mais même à la CAQ qui était au gouvernement, j'avais l'impression que des conseillers politiques avaient pris des crayons aussi pour dire « passez de même, passez de même, on va passer ça de même ».
Bien, les projets napkin, t'es pareil, là, le tramway, là, on m'a pas encore certifié que creuser dans le roc, là,
ça
à Côte d'Abraham, là, ça va bien aller, là. Ça m'a toujours torpillé l'esprit à suivre, évidemment. Comme on dit, Éric Duhaime, qui s'est également montré ouvert et positif, faut le rappeler, au payage sur le troisième lien, en disant que étant conservateur, bien évidemment, on est pour les utilisateurs payeurs pour aller chercher moins d'impôts et moins de taxes dans les poches des gens en général. Donc, il a démontré une ouverture d'esprit. C'est une excellente entrevue menée par Maxime Larouche dans Le Point de Max. Si vous n'écoutez pas Le Point de Max, écoutez ça de 10h à midi. C'est disponible sur le blvd.fm. Après la pause, Antonine, tu nous as préparé un super invité. Je te laisse le présenter.
Oui, parce que là, on est cette semaine beaucoup dans les suites de la commission Galland. Ce matin, il y avait France-Hélène Duranceau, présidente du Conseil du Trésor, qui a fait une conférence de presse dans laquelle on allait... en fait, on nous a présenté ça va être quoi les suivis qui seront donnés au rapport Galland. Il y a 26 recommandations. Mais un des éléments qui est ressorti de la commission Galland, c'est que les règles sur le lobbying, parce que les entreprises technologiques, en TI, etc., qui font des représentations auprès du gouvernement, si leur travail de représentation et pas dans leur tâche principale. Mm-hmm. Je l'explique très mal, mais le commissaire au lobbying qui s'en vient nous parler tantôt va vraiment mieux vous l'expliquer. Eh bien, ils ne sont pas couverts, ils ne sont pas obligés de s'inscrire au registre des lobbyistes. Et le commissaire au lobbyisme fait depuis longtemps qu'il dit qu'on doit redonner un tour de roue sur la question du lobbyisme au Québec, qu'on a plusieurs angles morts, on manque de transparence. Et là, ce n'est pas très glamour. T'sais, lui, il demande ça, mais c'était les citoyens dans la rue, souvent, eux autres, ils pensent que le lobbyisme, c'est mal, puis c'est sale, puis c'est méchant. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ce qu'on a besoin, c'est de s'assurer que, en fait, toutes les activités de lobbyisme soient déclarées de manière transparente. Il y en a d'autres angles morts, mais il y a celui-là qui fait que si toi, tu es un patron, un PDG d'une grande entreprise qui veut faire affaire avec le gouvernement, si ce n'est pas ta tâche principale d'être lobbyiste, bien, on ne saura jamais les représentations que tu as faites auprès du gouvernement. Ouais. Donc là,
puis là, on a des exemples concrets avec justement la firme McKinsey durant la COVID.
McKinsey.
Et ce qui s'est passé aussi avec la commission Gallup.
C'est ça. Donc, il y a des choses qui restent un peu dans le noir. Et moi, j'ai toujours cru que ce qui est dans le noir fait toujours plus peur. Mais souvent, quand on met la lumière, c'est pas si pire que ça. Puis il y a des solutions. Tu sais, c'est comme un peu nos finances personnelles. Des fois, tu dis, oh mon Dieu, je veux pas aller voir mon compte, je veux pas aller voir mes dettes. Vas-y, ça va être pas si pire. Ça continue d'exister. Puis quand c'est dans le noir, on dirait que ça pourrit puis que c'est toujours bien épeurant. Donc, la lumière, la transparence, c'est la solution à nos problèmes avec le lobbyisme. En terminant là-dessus, je dois dire que l'après Charbonneau, ça a mis un peu la table justement pour resserrer des règles à toutes sortes de niveaux. Donc là, est-ce que l'après Galant, est-ce que le fruit est mûr pour qu'on redonne un tour de roue pour avoir une meilleure éthique en matière de toutes sortes de choses, là, de gestion des projets, mm-hmm. puis notre argent, là, ça c'est sûr, mais aussi du point de vue des représentations que des entreprises privées ou d'autres organisations font auprès du gouvernement. C'est sain, c'est démocratique, mais il faut que ce soit transparent.
Alors, après la pause, Jean-François Routier, commissaire au lobbyiste, est avec nous en studio pour discuter de ceci. Un enjeu, peut-être, vous dites, ouais, c'est loin de moi. Non, c'est tout près parce que c'est notre argent, c'est l'argent du gouvernement. À l'émission On en jase à Boulevard 101. On en jase.